autour de la question. Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous intéresser à la chimie du vivant et à son incroyable efficacité pour produire et stocker de l'énergie, forcément propre et renouvelable. Si la vie dépend de la capacité des organismes vivants à utiliser efficacement le potentiel chimique de leur environnement, pourquoi ne pas s'en inspirer pour faire face à toutes nos crises énergétiques, environnementales? Mais comment? Comment reproduire artificiellement la fascinante photosynthèse réalisée par les plantes et les micro-organismes? Comment stocker l'énergie du soleil? Comment transformer l'eau en hydrogène pour produire de l'électricité et des carburants? Que faire avec le CO2 de l'énergie, nous répond le professeur Marc Fontcave du Collège de France, chercheur visionnaire à l'interface de la chimie et de la biologie. Marc Fontcave est notre invité autour de la question « Quelle chimie du vivant et pour le vivant ?» Bienvenue. Bonjour Marc Fontcave.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager les recherches fondamentales, à tous les sens du terme, que vous menez au Collège de France, où vous êtes professeur, titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques, internationalement reconnu pour vos travaux et vos découvertes. Il faut dire que vous êtes un chercheur visionnaire, promoteur d'une approche bio-inspirée pour une photosynthèse artificielle appliquée à la recherche d'énergie renouvelable. On peut dire, pour simplifier, que vous voulez mettre la chimie du vivant au service du vivant. Comment en avez-vous eu l'idée? Comment le chimiste que vous êtes a-t-il décidé de creuser ce champ de recherche particulièrement complexe à l'interface de la chimie et de la biologie?
Oui, alors, si on parle des applications dans le domaine de l'énergie, enfin, cette approche de chimie à l'interface de la biologie, elle est assez récente. Si on part de mon goût dès le début de ma carrière pour ces interfaces entre la chimie et la biologie qui ne concernaient pas l'énergie, je dirais qu'il y a un certain nombre de rencontres d'une part et d'autre part de lectures qui m'ont amené à cela. Alors je vais commencer par ça en quelques mots, mm-hmm. Puis ensuite parler des problèmes de l'énergie et comment cette interface entre la chimie et la biologie peut apporter un certain nombre d'éclairages et de solutions. Oui, assez jeune, découvrant deux choses. D'une part, le hasard et la nécessité, la lecture du hasard et la nécessité de Jacques Monod, qui montrait que, en effet, un certain nombre de processus complexes du vivant étaient guidés par, finalement, la chimie, c'est-à-dire par des molécules et des réactions chimiques. Et d'autre part, la découverte de ce qu'on appelle l'expérience de Miller. Alors Stanley Miller, c'est un chimiste américain dans les années 50 qui a démontré une chose absolument extraordinaire, que je continue à trouver extraordinaire et qu'il était encore plus quand j'étais plus jeune, au début de mes études. C'est il a créé dans un réacteur chimique, sur une paillasse, des molécules organiques du vivant, acides aminés, sucre, simplement en mélangeant des molécules aussi simples que de l'azote, de l'eau, de l'oxygène, du méthane, c'est-à-dire, et les a soumises à un rayonnement très puissant avec de la température, créant ainsi, d'après lui, les conditions originelles de la Terre, et décrivant ainsi par ces réactions qui conduisaient donc à des acides aminés et des sucres, par exemple, décrivant ainsi peut-être ce qui était à l'origine de la vie.
C'est-à-dire que la chimie pouvait permettre à remonter aux origines de la vie.
Enfin, voilà, exactement. C'est-à-dire que finalement, dans des conditions relativement simples, Stanley Miller, au fond, produisait les premières molécules du vivant, proposait que c'était ainsi que ça se passait. Et cela donnait aux chimistes, évidemment, une place considérable dans la question d'où venons-nous, quand la vie a démarré. Et la vie a démarré, sans aucun doute, avec la synthèse des premières molécules
La vie est chimique vivant. Au départ.
Voilà, la vie est chimique. Et ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, je vous parle d'acides aminés et de sucre, et ce sont les mêmes qui sont dans la vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la chimie non seulement était à l'origine, mais a été conservée tout au long de l'évolution, de sorte que la chimie, le vivant est encore chimique. Il n'est d'ailleurs, de mon point de vue, que chimique. Donc, ces deux choses, mono, d'une part, l'aspect biologique, et puis Stanley Miller, le fait que la chimie pouvait dire des choses sur les origines de la vie, m'ont vraiment poussé vers, alors que je commençais à étudier la chimie, vers des questions de biologie. Plus récemment, sur les questions énergétiques, c'est-à-dire la production, par exemple, de l'hydrogène à partir de l'eau, hydrogène comme carburant potentiel de demain, comme vous le savez, ou sur la question de peut-on utiliser le CO2 comme source de carbone pour faire des molécules utiles pour la société, et lié à ça, peut-être on aura le temps de l'expliquer, la question de comment peut-on stocker les énergies renouvelables, parce que comme vous l'avez sans doute bien compris,
le soleil, l'énergie du soleil.
Cette énergie du soleil est intermittente, donc si on veut vraiment demain, sur cette planète, avoir de l'énergie solaire utile, il faut qu'on soit en capacité de la stocker lorsqu'elle est en excès, quand il fait très beau, très chaud, et
de la garder
pour l'utiliser dans un second temps quand il fait nuit, quand il pleut, etc.
Voilà pourquoi aujourd'hui, Marc Fonca, vous explorez vraiment ce cycle chimique vertueux et écologique qui unit l'homme à la nature et au soleil. Vous venez de créer même un dispositif dans votre laboratoire, une plante artificielle qui transforme la lumière du soleil, l'eau et le CO2 en carburant durable avec des métaux abondants, non rares. C'est assez rare pour être souligné. Ça a même fait l'objet d'un article dans une presse de revue scientifique, on va y venir autour de la question quelle chimie du vivant est pour le vivant, mais comme d'ordinaire quand on parle chimie c'est plutôt pour en dénoncer les effets, en oubliant peut-être justement que le vivant, la vie c'est de la chimie, et ben c'est justement ce que nous rappelait ici même le professeur Albert Goldbetter, chronobiologiste et spécialiste des rythmes du vivant, on l'écoute.
En fait, une grande partie de la biologie, c'est de la chimie. Et quand on parle de la chimie du vivant, en particulier, les processus de la vie sont tous des processus chimiques. Que ce soit la synthèse des protéines, la réplication de l'ADN, les processus de division cellulaire. Ce ne sont pas des petites molécules comme en chimie organique, mais ce sont des protéines, ce sont des lipides, ce sont des macromolécules. Ce qui est particulièrement frappant dans la chimie des êtres vivants, c'est que ce sont les interactions entre toutes ces molécules. C'est pour ça qu'on parle de biologie des systèmes. Alors, est-ce que cette vision systémique de la biologie se retrouve également en chimie ? Certainement, c'est le cas. Quand on parle de biologie des systèmes, c'est finalement la biochimie des systèmes. C'est la chimie des êtres vivants, mais vue de manière systémique.
La biochimie des systèmes, c'est ce que vous étudiez, Marc Fonca.
Oui, effectivement. Ce que vient de nous dire ce collègue, c'est deux choses. La première, c'est que, d'une part, prenons une cellule vivante, elle est remplie de molécules. Il cite les grandes molécules, les protéines, les lipides, les acides nucléiques, l'ADN, l'ARN. Bon. Mais je rajoute, parce qu'il dit il y a aussi des petites molécules. Il y a des toutes petites molécules aussi. Enfin, donc, il y a des milliers de molécules. Donc là, il y a un répertoire. D'ailleurs, les chimistes, biochimistes, biologistes ensemble continuent à identifier ce répertoire des molécules présentes dans les organismes vivants. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'effectivement, ces molécules, grosses ou petites, interagissent entre elles. Et ça devient effectivement des systèmes très très contrôlés, très organisés, et c'est un mystère, ça continue à être un mystère. Et pourquoi elles s'organisent ? Évidemment, c'est pour réguler leur fonctionnement, mais c'est aussi pour transformer la matière. Parce que dans une cellule vivante, il y a à la fois des molécules, et puis il y a des molécules qui sont en permanence transformer pour créer des molécules énergétiques, pour créer des molécules qui vont permettre de communiquer avec d'autres cellules, etc. Donc il y a de la synthèse permanente. Donc il y a des molécules, il y a de la synthèse permanente et il y a de la consommation permanente de molécules et d'énergie.
Et il y a une photosynthèse qui vous intéresse particulièrement, que vous essayez entre guillemets de copier, hein, c'est de la photosynthèse artificielle avec laquelle il serait possible de stocker notamment l'énergie solaire. Vous venez de créer donc ce dispositif dans votre laboratoire. C'est une plante artificielle, hein, qui transforme la lumière du soleil, l'eau et le CO2 en carburant durable avec des métaux abondants, on l'a dit. Autour de la question quelle chimie du vivant et pour le vivant, pour bien comprendre, je vous propose un petit détour dans votre laboratoire au Collège de France, Marc Fontcave, où notre reporter Catherine Decopé a cherché à comprendre comment, avec votre équipe, vous êtes parvenu à transformer le CO2 en hydrocarbures. Reportage in situ avec explication de cette expérience de photosynthèse artificielle menée par vos deux doctorantes, la française Adèle Peugeot et la turque Dilam Karapinar, que l'on retrouve devant la paillasse.
On a besoin de transformer le CO2 pour former les produits chimiques qui nous intéressent, mais aussi de transformer l'eau en oxygène et en protons et en électrons. Et c'est la combinaison de ces deux réactions qui va permettre de produire les hydrocarbures à partir du CO2. Cet équipement, pour fonctionner, a besoin d'une source d'énergie. Et cette source d'énergie, c'est justement les panneaux solaires qu'on couple à ce système. Donc, pour schématiser, les panneaux solaires, ce serait l'étape 1, qui collecte l'énergie du soleil, qui la transforme en électricité, qui va ensuite passer au sein de la cellule, qui est en quelque sorte l'étape 2, au sein de laquelle on a les réactions qui se produisent. Et ensuite, l'étape 3, c'est collecter les différents produits que l'on forme. Alors par exemple, grâce au système développé par Dylan, on a pu produire de l'éthanol à partir du dioxyde de carbone.
Dylan Karapinar, le problème avec ce genre de cellules, c'est qu'on ne sait pas à l'avance si c'est de l'éthanol ou d'autres hydrocarbures qui vont sortir.
Exactement. C'est pour cela que nous menons des expériences qui nous permettent, au final, de quantifier quels produits nous obtenons et sous quelle forme, liquide ou gazeuse.
Et dans l'avenir, l'idée, c'est justement de pouvoir prévoir plus précisément ces réactions.
Ce qu'on peut dire au moins, c'est qu'à partir des matériaux que nous utilisons, nous sommes à peu près sûrs d'obtenir tel ou tel résultat. Nous travaillons sur différents systèmes métalliques et chaque métal a des propriétés propres concernant la conversion du dioxyde de carbone en d'autres produits chimiques.
De l'importance des métaux, Marc Fontcave. Il n'y a pas de vie sans chimie, il n'y a pas de vie sans métaux. Alors à chaque fois, on va de surprise en surprise pour nous, profanes.
Oui, ça c'est un peu la partie oubliée de la représentation qu'on se fait du vivant à l'échelle atomique et moléculaire, puis on parle de chimie. En fait, c'est historique et c'est culturel. Les premières découvertes sur la chimie du vivant ont porté sur ce qu'on appelle la chimie organique. Les molécules organiques, c'est-à-dire ces molécules remplies de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, pas de métal. Et donc, le vivant a été longtemps considéré comme presque exclusivement organique. Les protéines, les lipides, les acides nucléiques dont on parlait tout à l'heure...
C'est de l'organique.
C'est purement de l'organique, il n'y a pas de métal. Et puis il a fallu des découvertes ensuite, plus tard, beaucoup plus tard, pour s'apercevoir qu'il n'y avait pas de vie sans métaux. Notre corps, le nôtre, mais c'est vrai de tous les organismes vivants, est rempli de métaux absolument essentiels au fonctionnement cellulaire. Alors quand je dis est rempli, j'exagère, parce qu'une des raisons pour lesquelles on ne fait pas assez attention à ces métaux en dépit de leur importance, c'est qu'ils sont en fait en très petite quantité. Mais vous avez, dans vos cellules, vous avez du fer, du cuivre, du zinc, du nickel, etc.
Indispensable, mais en très petite quantité.
Indispensable. Juste un exemple, par exemple. L'hémoglobine qu'il y a dans notre sang, c'est grâce à cette protéine qu'on est capable de fixer l'oxygène que vous respirez, qu'il y a dans l'air, qui est transporté ensuite dans les cellules, parce que cet oxygène va nous servir à faire des réactions chimiques et à alimenter en énergie notre système. On a besoin d'oxygène, comme vous le savez. Eh bien,
pour vivre,
cette hémoglobine contient un atome de fer. Et s'il n'y avait pas cet atome de fer, c'est cet atome de fer qui fixe la molécule d'oxygène. Et s'il n'y avait pas cet atome de fer, l'oxygène de l'air que nous respirons passerait comme ça et s'arrêterait jamais, ressortirait de notre organisme sans jamais avoir été fixé.
Ce qui veut dire que ces métaux sont absolument essentiels.
Ces métaux sont essentiels et je prends un deuxième exemple. Oui. Je prends un deuxième exemple parce que ça a été un moment très important de ma vie scientifique. C'est la découverte d'enzymes qui étaient absolument essentielles à la synthèse de l'ADN. Oui, c'est pas rien. Mmh. C'est à la prolifération cellulaire et qui là aussi, ces systèmes contenaient des atomes de fer et fer absolument essentiel à la biosynthèse de l'ADN. Nous ne pourrions pas, et plein d'organismes sur la Terre ne pourraient pas proliférer si nous n'avions pas ces atomes de fer pour faire ce travail-là.
Ce qui veut dire donc, c'est pour ça que votre domaine, on parle de chimie bio-inorganique.
Absolument, oui.
Ce qui veut dire que pour copier, imiter la nature, il faut donc comprendre tout ça, comprendre le rôle des métaux, comment ça fonctionne et comment ça fonctionne en interaction, comment nous sommes à la fois de la chimie et des métaux.
Absolument. Alors là, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de chimie bio-inspirée, c'est celle que je développe, comme d'autres personnes dans le monde, c'est en effet cette stratégie, cette démarche qui consiste à comprendre, par rapport à une question donnée, une question de, par exemple de transformation chimique, de regarder quelle est la réponse naturelle, la réponse du vivant, parce que parfois, la question qu'on se pose a une réponse dans le vivant, et ensuite, évidemment, de trouver, et c'est souvent le cas, cette réponse formidable, assez originale,
comment efficace. Ça
voilà, donc il faut d'abord comprendre comment ça marche, et ensuite copier d'une certaine façon, ou s'en inspirer pour inventer, et je dis vraiment, c'est quand même de l'invention, même si c'est de la copie, et inventer des systèmes qui sont capables de reproduire cette transformation en prenant, si vous voulez, des éléments qui sont présents dans le système vivant.
Et par exemple, puisque vous travaillez sur cette photosynthèse artificielle, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de copier, de mimer cette photosynthèse artificielle que les plantes savent si bien faire ?
Alors, y a des choses dans le vivant qui sont simples et puis il y a des choses qui sont très compliquées. Et typiquement, la photosynthèse artificielle, c'est la photosynthèse naturelle d'abord, parce qu'à nouveau, dans cette démarche de photosynthèse artificielle, donc de bio-inspiration, il faut comprendre le système naturel. Donc d'abord, cette photosynthèse naturelle qui consiste, donc je le redis, à fixer le CO2 de l'air, qui est très dilué, le combiner avec de l'eau. Deux molécules très simples, très stables, pour les transformer en tout l'ensemble des molécules qu'il y a dans l'organisme vivant, parce que toutes nos molécules organiques dont nous parlions tout à l'heure viennent du CO2 de l'atmosphère.
Du CO2 et de l'eau.
Et de l'eau. Ce processus-là est d'une très grande complexité, auquel se rajoute le fait que l'énergie pour cette transformation dans les plantes, dans les microalgues, dans les cyanobactéries, qui sont tous des organismes dits photosynthétiques, cette énergie vient du soleil. Et il n'y a que le soleil qui est capable de faire cette transformation, d'être la source d'énergie. Et donc vous trouvez, en plus de la complexité de la réactivité chimique, vous trouvez avec la complexité de capter l'énergie solaire et de transformer cette énergie, vous voyez, c'est quand même, vous avez du soleil qui vous tombe dessus, mais comment vous l'attrapez et comment vous le transformez et vous le donnez à du CO2 et de l'eau pour faire du glucose, des protéines, des lipides, etc. Donc, c'est effectivement d'une très grande complexité. Donc,
Il ne suffit pas de comprendre le principe.
si on peut le comprendre, c'est déjà pas mal. On commence déjà à pas mal comprendre un certain nombre de grands principes du fonctionnement de la photosynthèse. Et évidemment, c'est très ambitieux, c'est un objectif très difficile à atteindre, mais puisqu'on s'aperçoit que la nature nous fournit un modèle, un exemple de ce stockage de l'énergie solaire à travers l'utilisation du CO2, on se dit bien entendu qu'on a là quelque chose qu'il faut absolument regarder, peut-être copier, il faut s'en inspirer, parce que notre problème aujourd'hui, entre autres, il y en a de nombreux, mais pour ce qui concerne la révolution énergétique de demain et la révolution écologique, c'est en partie comment stocker l'énergie solaire. On en a déjà parlé, comment stocker l'énergie solaire et que peut-on faire du CO2 qui est cause du réchauffement climatique.
On va y venir, parce que vous avez aussi des pistes pour stocker le CO2. Tout ça, on le rappelle, c'est vraiment un cercle vertueux, mais ce sont des recherches fondamentales et qui demandent du temps.
Oui, alors, donc effectivement, ces recherches qui conduisent à la fameuse plante artificielle dont vous parliez, on l'appelle plante artificielle parce que c'est vrai que c'est un peu de la communication, mais...
C'est pas une plante.
Voilà, c'est ça. Mais je crois que c'est assez évocateur et ça correspond quand même à une réalité, puisque l'ensemble du système que Cadel a décrit, c'est en effet quelque chose qui est une sorte de panneau photovoltaïque qui effectivement, et ça tout le monde comprend ce que ça veut dire, collecte l'énergie solaire, transporte cette électricité, et cette électricité, on l'utilise tout de suite pour, c'est de l'énergie, hein, l'électricité, pour l'envoyer dans un dispositif sur lequel on travaille aussi, qui fait la transformation qu'on souhaite, de transformer par exemple l'eau en hydrogène ou le CO2 en une molécule.
Vous y êtes parvenu sur la paillasse. Hein.
Oui, ça c'est
mais c'est extraordinaire c'est une grande révolution. Hein.
Écoutez, oui, je pense qu'en effet, alors, on n'est pas les seuls à travailler dans le domaine, mais effectivement, ce sont des perspectives assez fascinantes et je pense que demain, alors quand je dis demain, vous l'avez évoqué, vous sembliez poser la question, demain, contrairement à ce que tous les catastrophistes nous annoncent, ça ne sera pas dans un an ou deux, mais ça sera dans 10, 20 ans, plutôt 20 ans d'ailleurs. Mais demain, oui, il y aura des systèmes de ce type-là qui nous permettront de stocker l'énergie solaire pour pouvoir l'utiliser et transformer cette énergie solaire en véritable carburant. Qui pourrait être utilisé dans un second temps quand on en aura besoin et qu'il n'y aura pas de soleil.
Allez, autour de la question quelle chimie du vivant et pour le vivant, on avance et on se laisse inspirer par une autre musique et une autre voix chère à votre cœur d'amateur de jazz, Marc Fontcave, c'est Chet Baker sur RFI, Look for the Silver Lining, et c'est pour vous.
Merci.
Vous écoutez RFI autour de la question.
Look for the silver lining whene'er a cloud appears in the blue. Remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you, a heart full of joy and gladness will always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. Thank you.
Chet Baker sur RFI, Look for the Silver Lining. Il y a toujours de la lumière hein, au bout du chemin. Et ça fait du bien par où ça passe. Marc Fontcave, autour de la question, quelle chimie du vivant et pour le vivant? Dans votre laboratoire au Collège de France, je rappelle que vous êtes professeur au Collège, titulaire de la chaire Chimie des processus biologiques. Vous tentez de répondre aux enjeux, on va dire, les plus essentiels de notre époque, à savoir le stockage du CO2, du monoxyde de carbone, responsable entre autres du changement climatique. Alors pour reprendre le titre un peu provocateur de la conférence que vous avez donnée ce printemps à l'ENS, à l'École Normale Supérieure de Lyon. Que faire du CO2 de la chimie, dites-vous Marc Fontcave? Ce n'est pas une boutade, c'est un vrai champ de recherche, une vraie piste de recherche.
Oui, alors je merci de soulever ce point, parce que en effet, c'est exprès que ce titre de conférence est ainsi, c'est un peu de la provocation. La première question, c'est que faire du CO2? Évidemment, ça, c'est une question que tout le monde se pose, puisque aujourd'hui, le CO2 est présenté comme la molécule la plus abominable qui existe sur la planète, dont il faut se débarrasser. En passant, on a à nouveau oublié que ce que je disais tout à l'heure, c'est que, évidemment, tout ce qui est carbone sur la planète vient du CO2 de l'atmosphère.
C'est-à-dire, le carbone est indispensable à tous les êtres vivants.
Voilà, le carbone est absolument indispensable à tous les êtres vivants. Et à nouveau, la photosynthèse nous permet de relier le vivant, nous-mêmes, au CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Sans CO2, il n'y a pas de vie.
Ouais, donc trop de CO2, il n'y a plus de vie, mais sans CO2, voilà. Il n'y a pas de vie.
Et donc, que faire du CO2? Alors, en fait, quand je pose la question, c'est pour m'opposer à cette vision qui est que ce CO2, il faudrait donc l'attraper. Alors, dans l'atmosphère, c'est un peu difficile parce que c'est trop dilué, mais l'attraper, par exemple, au-dessus des gros centres industriels de production de CO2, les cimenteries, les raffineries, les centrales thermiques, là, vous avez une grosse densité de CO2 qui sort. Donc là, vous pouvez le capturer. On utilise ce mot de capturer.
Capturer mais surtout, CO2, ensuite, mais après, il faut le stocker quelque part.
Ensuite, il faut aller le... Plus que le stocker, on parle de séquestration, ça veut dire qu'il faut aller le cacher. C'est tellement horrible qu'il faut aller le cacher au fond de la Terre.
Oui.
Au fond de la Terre. Alors, je ne discute pas des stratégies que les gens évoquent. Quand après mon point d'interrogation, deux points, j'apporte la réponse en disant de la chimie, point d'exclamation, c'est pour dire qu'on pourrait en faire autre chose que de le cacher, parce que c'est du carbone. Et donc, si vous voulez, mon projet, comme ceux des collègues qui travaillent à la transformation du CO2, c'est finalement au contraire de dire cette molécule de CO2, on peut la transformer en molécule utile pour l'humanité, pour l'industrie chimique, voilà.
On en revient à un cercle vertueux, c'est pour eux, c'est ça.
Exactement,
hein.
Alors c'est tout à fait vertueux, c'est-à-dire que après avoir passé du temps, au fond, plus d'un siècle, à brûler des hydrocarbures pour faire du CO2, parce que ça donnait tellement d'énergie facilement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut prendre ce CO2 et faire le chemin à l'envers, fermer le cycle et redonner des molécules utiles, y compris des hydrocarbures. Sauf que cette étape-là, maintenant, c'est une étape qui demande de l'énergie. Évidemment, il faut le faire avec de l'énergie solaire, et c'est là que vous avez la photosynthèse artificielle, justement, transformer du CO2 en hydrocarbures, en carburant, en utilisant l'énergie solaire, et vous fermez le cycle. Donc, quand je dis... On peut faire de la chimie avec du CO2, ça veut dire qu'on peut espérer le transformer en molécules utiles. Des polymères, des carburants, des médicaments,
etc. C'est un changement complet de mentalité. Il faut à la fois que la recherche avance et mettre toutes vos esprits et toutes vos doctorantes, d'où qu'elles viennent, devant la paillasse pour essayer de comprendre comment ça marche, de reproduire. Mais c'est aussi de changer complètement d'esprit et de dire finalement, ce qu'on trouve diabolique, ben c'est ça aussi qui nous maintient en vie. Enfin, il faut regarder ça autrement.
Absolument. C'est une sorte de mission que je me suis donné de réhabiliter d'une certaine façon la molécule de CO2 et le carbone. Vous savez, on se pose aujourd'hui la question quelle énergie, quelles seront les sources d'énergie quand il n'y aura plus les énergies fossiles, gaz, charbon, pétrole. Alors on dit le vent, l'éolien, le soleil, le solaire, etc.
Les marées.
Mais il y a une chose qu'on oublie, c'est une autre question, c'est quand il n'y aura plus ces fossiles, quel sera le carbone de notre société? Parce que nos sociétés sont très carbonées aujourd'hui, et elles le seront demain. C'est pas que les carburants, c'est tout ce qui nous entoure. Vous voyez, autour de nous, là, Tout ce qu'il y a autour de nous, il y a du carbone.
Les micros, la table, il y a du carbone partout.
Il y a du carbone partout et il faut du carbone.
Donc
je,
il en faut.
Je ne peux pas imaginer un monde sans carbone. Donc,
quand on parle de décarboner, finalement, ça n'a pas beaucoup de sens.
Oui, c'est assez débile, oui. Sauf que c'est débile si on le prend à la lettre. Mm-hmm. Évidemment, on sait ce que veulent dire les gens quand ils disent décarboner, ça veut dire décarboner l'énergie. Mais il y a tout un tas de choses qu'il ne faut pas décarboner, qu'on ne pourra pas décarboner, il faudra du carbone. Donc la question, c'est... Au fond, quel sera le carbone demain quand il n'y aura plus les fossiles, qui sont aujourd'hui la source de carbone, évidemment, de l'industrie chimique ? La réponse que j'apporte, c'est ça pourrait être aussi du CO2, si on arrive à faire le chemin à l'envers. Mais il n'y aura pas que le CO2. Par exemple, la biomasse, toute cette masse de molécules organiques qu'il y a dans le vivant, les plantes, les herbes, toute la végétation, tout ça, c'est riche de molécules. D'ailleurs, comme on vient de le dire il y a quelques minutes, ces molécules-là viennent du CO2 par la voie de la photosynthèse naturelle.
On est encore dans ce cercle, dans ce cycle.
Voilà. Mais voilà. Donc, finalement, la réponse, c'est biomasse et CO2 seront peut-être les sources de carbone de demain. Alors, quand je dis demain, là, c'est même pas 20, 30 ans.
C'est
dans 100 ans ou plus.
Tous ces cycles vertueux font partie de ce qu'on appelle la chimie verte. À ce sujet, je propose d'écouter l'un de ses plus inspirants promoteurs de cette chimie verte, Stéphane Sarade, qui est directeur de recherche au CEA. Lui aussi cherche à s'inspirer de l'efficacité, de l'économie, de la sobriété des processus chimiques du vivant. Je propose de l'écouter au micro de Catherine Decopé.
C'est ce qu'on appelle l'économie d'atomes en chimie verte, c'est-à-dire que quand vous allez prélever dans la nature une matière première, l'idée c'est d'être en capacité de récupérer les molécules qui vont vous servir pour l'énergie, les molécules pour l'agroalimentaire, les molécules pour la cosmétique. Et plus on sera en capacité de valoriser l'ensemble des molécules, moins on générera de déchets à traiter.
C'est comme quand on fait la cuisine et qu'on réutilise les fans de radis, par exemple.
C'est exactement ça. La cuisine est pour moi un élément majeur de pédagogie. Quand vous faites une mayonnaise, vous avez une matière première qui est un œuf. Donc cet œuf, vous allez utiliser le jaune, c'est une matière première renouvelable que vous mettez dans un solvant, de l'huile, dans lequel vous allez mettre de l'énergie, soit votre bras, soit un batteur électrique, pour fabriquer un produit. Et vous allez avoir deux produits non utilisés, le blanc d'œuf et la coquille d'œuf. Le blanc d'œuf, il est très facilement recyclable, en cuisine pour faire des meringues par exemple, et il vous reste ce qu'on appelle un déchet ultime, qui est la coquille, que vous pouvez facilement immobiliser, mais même certains artistes utilisent la coquille d'œuf pour faire des œuvres, donc vous voyez que la chimie verte n'a pas de limite.
Pas de limite à la chimie verte, pas de limite pour penser, pour créer un cycle chimique vertueux, Marc Fontcave, c'est ça, hein ?
Oui, je partage évidemment ce que vient de dire ce collègue. Il y a une vraie explosion du côté de la chimie, de ce qu'on appelle la chimie verte. D'ailleurs, c'est intéressant de le dire et de le redire parce que vous l'avez peut-être dit à un moment donné, mais c'est vrai que la chimie est une discipline qui parfois est considérée sous un angle un peu négatif, les pollutions, les produits toxiques,
etc.
C'est chimique, c'est toxique. Voilà. Alors que, évidemment, il faut rappeler que tout ce qui nous entoure est chimique, que l'industrie chimique est une formidable industrie, et surtout qu'elle a fait sa révolution, et depuis déjà pas mal de temps, vers des nouveaux procédés, de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules, avec donc des procédés moins énergivores, avec moins de déchets dans les processus, cette économie d'atomes dont ce monsieur parle. Donc voilà, la chimie verte est en route et il y a une vraie révolution du côté de l'industrie chimique. Plutôt que de l'attaquer, on ferait mieux de s'apercevoir de ces efforts considérables.
Mais partout dans le monde, il y a une révolution au niveau de l'industrie chimique.
Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, même un pays comme la Chine, dont on nous a dit qu'il ne s'occupait pas des problèmes de pollution et d'environnement, etc. Bah, bien sûr que si, ils s'en occupent, parce qu'évidemment, très rapidement, ils en souffrent, ils sont confrontés à ça. Donc, il y a, y compris dans ces pays-là, une prise de conscience très forte. Et cette révolution de la chimie verte, elle est à la fois intéressante pour le citoyen, évidemment, son environnement. Elle est intéressante pour l'industriel, parce qu'il y a des marchés maintenant, des marchés qui sont de plus en plus importants. Et puis, pour un chimiste, c'est aussi fascinant. Inventer de nouveaux processus qui tiennent compte de la dépense énergétique, de la production de déchets, de l'utilisation par exemple, de catalyseurs de métaux les plus disponibles et pas prendre les métaux les plus rares.
C'est ça, parce que dans vos travaux aussi, oui, vous essayez à chaque fois d'utiliser des métaux, pas des métaux rares, mais des métaux abondants. Ça fait partie de votre réflexion éthique, on va dire.
Absolument. Et donc, ça, c'est un exemple de développement de la chimie verte à travers, par exemple, comme nous on le fait dans mon laboratoire, mais d'autres le font, c'est-à-dire l'utilisation de métaux non nobles. C'est-à-dire, on exclut le platine, l'iridium, le rhodium qu'on a utilisé pendant des années dans les laboratoires et dans l'industrie chimique pour passer à des atomes de type fer, cuivre, zinc, etc.
Qui sont très abondants.
Voilà, qui sont très abondants. Et typiquement, la fameuse plante artificielle dont nous parlions tout à l'heure a été élaborée exclusivement à partir de cuivre, qui est un des métaux les plus abondants sur la planète, ce qui veut dire qu'on vise véritablement des dispositifs demain les moins chers et les plus durables.
Et les plus durables. Alors qu'est-ce qui vous inspire le plus justement dans tous ces processus chimiques à l'œuvre dans la nature et dans tout le vivant? Nouvelle question pour vous, soulevée par un autre chercheur hors limite et visionnaire, Thomas Eames, qui s'intéresse aux frontières du vivant dans son dernier essai sur les infravies et qui a donc une question pour vous, Marc Sonnegard.
Quand on cherche à s'inspirer du vivant pour découvrir de nouveaux processus ou modéliser de nouveaux processus, est-ce qu'on est plus souvent surpris par l'efficacité de ces processus ou est-ce qu'on est plutôt surpris par l'originalité imprévue avec lesquelles ils fonctionnent dans la nature?
Votre réponse, Françoise.
Oui, c'est une question intéressante parce que évidemment, on a envie de répondre les deux, mon capitaine.
mais oui, et l'efficacité et l'originalité avec
oui,
ça marche.
Oui, bien sûr. Mais moi, je dirais que moi personnellement, en tout cas, ma première fascination, c'est pour les systèmes qui apportent une solution originale, les systèmes vivants qui apportent une solution originale à laquelle je n'aurais pas pensé ou à laquelle, à ce moment de l'histoire des sciences, les chimistes n'auraient pas pensé. Donc, c'est plutôt vers l'originalité d'abord du système, en disant c'est incroyable, la nature a pensé à ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail.
Exemple peut-être qu'on pourrait partager.
Me vient tout de suite un exemple. Eh ben, à nouveau, le CO2. Donc, nous travaillons sur cette transformation du CO2. La question qu'on s'est posée, bien évidemment, c'est, à part la photosynthèse naturelle, est-ce qu'il y a des enzymes? Donc, les enzymes, ce sont des catalyseurs. Et les catalyseurs, ce sont des molécules qui accélèrent les réactions chimiques. Il n'y a pas de vie sans enzymes. Toutes les réactions qui sont dans une cellule sont formidablement accélérées par des enzymes, et sans cette accélération des vitesses, il n'y aurait pas de vie. Voilà comment on peut simplifier les choses. Eh bien, on s'est posé la question, mais y a-t-il des organismes vivants qui transforment le CO2 en quelque chose qui nous intéresserait, nous, humains, nous, industrie chimique, etc. Par exemple, on découvre que la nature a des enzymes pour transformer le CO2 en monoxyde de carbone, CO. On passe de CO2 à CO. Les spécialistes ont du mal à apprécier, mais c'est déjà pas mal de faire du CO à partir du CO2. C'est une molécule qui peut être utilisée dans l'industrie très utilement. De la même façon, il y a des enzymes qui transforment le CO2 en acide formique. C'est aussi une petite molécule qui est utile dans l'industrie chimique. Eh bien, la nature fait ça. Et la chose absolument fascinante, c'est que la nature a exclusivement sélectionné un seul métal pour faire cette transformation, qui est le molybdène. Or, c'est un métal qui est quelque part dans la classification périodique, très peu étudié. La nature a choisi ce métal. Ce n'est pas le plus abondant. Et évidemment, il est abondant parce que la nature ne l'aurait pas choisi. Voilà. Donc, voilà par exemple quelque chose qui me fascine, et c'est au fond l'originalité, pas tant que ça l'efficacité. D'ailleurs, tous les systèmes naturels ne sont pas hyper efficaces. Si vous prenez à nouveau la photosynthèse naturelle,
il y a de la perte.
Le rendement, si vous voulez, le rendement énergétique de la photosynthèse naturelle effectuée par une plante, c'est en dessous de 1%. C'est-à-dire il n'y a qu'un pour cent de l'énergie qui frappe la plante, l'énergie solaire, qui se retrouve sous forme de molécules riches en énergie.
Donc c'est peut-être pas du côté de l'efficacité voilà, et de la performance. Après, on peut tout rechercher dans la nature.
Bien sûr.
Mais vous, c'est plutôt l'originalité.
Voilà, l'originalité de la réponse qu'apporte le vivant à une question chimique donnée.
Et l'originalité de votre choix musical, Marc Fontcave, nous entraîne sur le continent africain. Un petit clin d'œil à votre enfance, à votre adolescence
c'est
sur
ça.
Place.
Hein. Oui.
Vous avez eu envie de vous remettre Manu Dibango dans les oreilles, sa ambiance, sa groove comme on aime, Kamoulango sur RFI.
Samba bakuma ilinu bakumona mundi kasanda wabanya pete
kamulango kamula makamula muwe
kamulango
kamulango ditunga mundende
kamulango
kamula makamula muwe
kamulango
kamulango ditunga mundende
kamulango
oh ditunga
wayoyoye bakwabi samba bakuma ilinu bakumona mundi kasanda wabanya pete Kamula
Oba Yomse
sur RFI, clin d'œil spécial dédicace à votre enfance et votre adolescence africaine, Marc Fontcave à Bangui, je crois, Libreville, Dakar.
Oui, alors beaucoup à Bangui, en République centrafricaine, et puis jusqu'au bac, deux pays, d'abord Dakar, le Sénégal, et puis pour finir Libreville au Gabon. Ouais.
Où sont beaucoup de nos fidèles auditeurs et auditrices? Alors, je ne sais pas si c'est le soleil du continent qui vous a inspiré votre recherche, vos travaux. En tout cas, vous n'êtes décidément pas catastrophiste. Je ne sais pas si vous êtes résolument optimiste, mais en tout cas, vous êtes pour développer la recherche, la créativité, notre imagination, s'inspirer de la nature pour continuer à vivre sur cette terre et faire de la chimie, comme le fait le vivant, une chimie vertueuse, durable, pour tous.
Oui, alors j'ai des optimismes et j'ai des pessimismes aussi. Mon optimisme, c'est d'une certaine façon, une certaine foi dans la capacité de l'homme à résoudre les problèmes, y compris ceux qu'il a créés lui-même. Et parfois, je suis effaré par, effectivement, ce catastrophisme ambiant qui ne voit l'homme que comme le destructeur de la nature. Et alors que, évidemment, il y a eu des choses très négatives, mais il y a eu aussi des choses formidables que l'homme a fait sur la Terre, ne serait-ce que, pour le moment, assez mal et assez inefficacement, mais nourrir 7 milliards d'habitants. Et quand il y en aura 10 milliards, le défi sera encore plus grand.
L'affaire est complexe, en tout cas, elle est évidemment
mais optimiste quand même, et en tout cas, je lutte contre ce catastrophisme qui consiste à dire que si on n'a pas résolu toutes les questions complexes d'environnement, d'écologie, d'énergie dans l'année ou les deux années qui suivent, c'est la mort de tout le monde. Donc ça, c'est totalement absurde.
C'est contre-productif en plus.
Mon pessimisme, il vient du fait que j'aimerais bien que mon pays et l'Europe soient les acteurs principaux de cette révolution énergétique. Et malheureusement, je crains que sans les financements nécessaires, eh bien, ce soit les autres qui résolvent les problèmes. Quand je dis les autres, c'est, je pense évidemment aux États-Unis, mais je pense surtout à la Chine. Mais au fond, si la planète doit être sauvée par les Chinois, ça sera toujours ça. Mais je pense qu'il y a un enjeu économique pour l'Europe à jouer un rôle plus important dans les nouvelles technologies de l'énergie. Et là, je dois dire que je suis un peu inquiet.
Je propose de laisser la conclusion, si j'ose dire, à un autre chercheur que vous connaissez bien, Alain Prochian, professeur et administrateur du Collège de France. Il était récemment notre invité, on l'écoute.
Quand on pense à ce qui va se passer dans les 100 ou 200 années qui viennent, c'est demain, réchauffement de la planète, comment on peut stocker le carbone, mais aussi comment on peut utiliser le carbone et quelles sont les voies scientifiques qu'il faut développer pour traiter cette question, pas sous l'ordre de la régression, de la décroissance, mais sous l'ordre de, scientifique, c'est-à-dire quels sont les problèmes et qu'est-ce qu'il faut rassembler comme énergie, comme intelligence et comme outil et comme connaissance scientifique pour faire face à ce problème.
C'est vraiment ça la question, rassembler les intelligences, les outils pour faire face à ça, ce que vous faites.
Oui, je suis heureux qu'Alain identifie ce problème comme étant un des problèmes majeurs. Donc, nous essayons de nous en occuper modestement. Et effectivement, il a raison. On a besoin de tout le monde. D'abord, on a besoin de jeunes qui s'investissent dans les métiers de la recherche et de l'innovation.
Des jeunes de partout.
Et vraiment les tout meilleurs. Ce sont des questions extrêmement difficiles. On a besoin des tout meilleurs. On veut au Collège de France, on veut que ce soit ceux-là qui viennent dans les laboratoires, pas parce que c'est le Collège de France, mais parce qu'on a des conditions de travail qui permettent à ces gens-là de s'exprimer et que nous pouvons contribuer à la résolution de ces problèmes. Mais il faut des gens vraiment investis, jeunes et très performants. La deuxième chose, c'est que on ne fera pas cette révolution tout seul dans les laboratoires du Collège de France ou de n'importe quelle université sans lien avec l'industrie. Mmh. Je répète que la révolution technologique et énergétique, ce seront aussi les entreprises, pour pas dire beaucoup les entreprises, parce que ce sont elles qui mettront sur le marché, justement, les produits de la chimie verte, les nouvelles technologies de l'énergie, etc.
Donc ne les diabolisons pas, ne diabolisons personne, et mettons toute notre intelligence au service d'un avenir qui soit durable, d'un cycle vertueux. Merci infiniment,
merci.
Marc Fontcave, merci d'être venu en direct partager vos pistes de recherche, vos interrogations aussi. Je rappelle à nos amis auditeurs et internautes que votre leçon inaugurale et tous vos cours sont en accès libre sur Internet, sur le site du Collège de France. Le lien est sur notre page. Merci Marc Fontcave. Et puis j'invite nos auditeurs qui sont à Paris, qui seront à Paris mardi prochain, vous donner une conférence à l'Académie des sciences, à la rencontre d'un académicien sur votre parcours. À mon avis, ça devrait être intéressant. Merci à vous, Marc Fontcave.
Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain pour nous interroger cette fois sur l'intelligence des abeilles, que l'on sait désormais capable de compter grâce aux recherches de Martin Jurfa, qui sera demain notre invité autour de la question comment se mettre dans le cerveau d'une abeille, avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brou en coulisses. Merci de votre fidélité, merci de votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, le prochain journal, c'est dans un peu plus d'une minute.